Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour Mondial Sport en direct sur RFI. Tous les exploits aux quatre coins du globe, un globe où nous ne naissons malheureusement pas tous égaux. Rencontre aujourd'hui avec une figure exceptionnelle. Elle s'appelle Massoma Alizada, une athlète qui a eu le courage de monter sur un vélo. Rien d'extraordinaire, me direz-vous ? Sauf que Massoma Alizada est née il y a environ 28 ans en Afghanistan. L'Afghanistan qui est aussi le pays des talibans. C'est un pays où de simples gestes, de simples coups de pédale, de simples promenades à vélo, en bicyclette, peuvent coûter cher, très cher aux femmes. Pour vivre sa passion et même un peu plus, Massoma Alizada a quitté sa terre natale. Après avoir trouvé refuge en France, la cycliste a réalisé son rêve olympique à Tokyo avec l'équipe des réfugiés il y a 3 ans. Cet été, elle retrouvera les Jeux et sa nouvelle famille à Paris et donc chez elle, quelque part. Elle sera même la chef de mission de l'équipe des réfugiés olympiques. Massoma Alizada dans Mondial Sport sur RFI ce dimanche.
Je m'appelle Massoma Alizada. Massoma, c'est un prénom arabe, ça signifie innocent. Du coup, ça veut dire que sans faute, innocent. Je suis née en 1996, mais pour le jour et mois, je ne suis pas trop sûre parce que je suis née pendant la guerre. Et personne n'a pas vraiment écrit quelque part quelle date je suis née. Je sais qu'en 1996. Et je suis née en Parwan. Et le district, c'est Sheikh Ali. Et le village, c'était Betkol. En fait, la différence entre la France et en Afghanistan, c'est qu'on a la ville. Après la ville, on a district. Après district, on a village. Du coup, mon village, c'était Betkol. Et district, c'était Sheikh Ali. Et après la ville, c'était Parwan. C'est une ville à côté de Kaboul, au centre. On peut dire que c'est à peu près au centre, à côté de Bamiyan et Kaboul.
Nous avons eu l'honneur de rencontrer Massoma Alizada la semaine passée au sein du siège de l'UNESCO. C'est dans le cœur de Paris, non loin d'une tour Eiffel qui dominera les Jeux Olympiques dans quelques semaines à peine. L'UNESCO, une émanation, une organisation des Nations Unies, elle œuvre à la paix dans le monde en faisant la promotion de l'éducation, de la santé ou encore du sport. Autant de choses qui nous paraissent normales vues de France, mais pour une Afghane née en 1996, année d'une première arrivée au pouvoir pour les talibans dans ce pays, talibans extrémistes religieux, eh bien la réalité est différente. Massoma Alizada passe toutefois une partie de son enfance en Iran, une étape importante pour découvrir sa future passion, le vélo, le cyclisme. Elle revient en Afghanistan quelques années après un premier départ des talibans, mais leurs menaces, leurs idées et leurs pressions sont toujours présentes.
Moi, j'ai grandi dans une famille que mes parents, ce n'était pas l'opportunité d'aller à l'école. La famille, par exemple, mes oncles, mes tantes et les familles secondaires, elles étaient toujours l'esprit fermé. Et du coup, on devait absolument respecter énormément la culture et je devais respecter les règles strictes que ma famille m'imposait. Pas mes parents, mais la famille, la communauté que j'ai été, surtout en Afghanistan, à Kaboul, dans le quartier que j'ai été, c'était un quartier sensible, qu'elle était un peu stricte sur les femmes et tout. Du coup, j'ai grandi dans un quartier sensible avec la famille qui était pas trop ouverte. Et elle n'était pas autant éduquée parce qu'à cause de la guerre, elle n'avait pas l'opportunité d'aller à l'école et tout. Mais quand même, je suis arrivée jusqu'à là.
Oui, parce que alors, votre famille et vous avez vécu en Iran où les mentalités étaient peut-être un peu différentes, où il y avait peut-être plus de liberté pour les jeunes filles. C'est ce que vous semblez dire.
Et quand j'avais à presque 2 ans que le Taliban a pris le contrôle de l'Afghanistan et comme mon père et mes oncles sont combattus contre le Taliban, on était obligés de quitter le pays. Ah oui, quand on est parti en Iran, et là-bas, on n'a pas pu obtenir le statut réfugié. Et comme on n'avait pas le papier, on ne pouvait pas aller à l'école, on n'avait pas le droit de travailler, de louer un logement. Mais c'était là-bas que j'ai appris le vélo, c'était mon père qui m'a appris le vélo et la situation pour les femmes en Iran, c'était totalement différent que l'Afghanistan. En Iran, on a certaines libertés, les femmes elles pouvaient jouer dehors ou d'utiliser le vélo et tout, mais quand on est retourné en Afghanistan en 2007, Et là-bas, j'ai vu que les filles, elles avaient plus droit de sortir de leur maison pour jouer dehors, même les petites filles, et le vélo, c'était encore pire. Mais après, en général, j'adorais le sport. Je voulais absolument être une athlète professionnelle, de participer aux compétitions internationales. Et j'ai intégré l'équipe sportive de l'école. Et après, j'ai commencé à chercher mon talent, dans quel sport je suis plus capable et j'ai plus de talent. Et j'ai essayé différents sports jusqu'à qu'un jour, le président de la fédération de cyclisme, elle est venue à notre école pour chercher les filles qui s'intéressent de faire du vélo pour intégrer à l'équipe nationale. Et comme ça, j'ai participé à une course. Et après, comme ça, j'ai pu rencontrer le président, j'ai pris le contact, j'ai gardé le contact. Et après ce jour-là, j'ai décidé d'abandonner les autres sports et je voulais absolument continuer que le vélo. Et pour la plupart des gens, c'était la première fois de leur vie de voir une fille sur le vélo. Et il y avait des gens qui même elle voyait pour la première fois, elle était choquée, elle était surprise même. Il y avait certains hommes qui n'étaient pas d'accord. Ils pensaient que c'est pas pour une femme afghane de rouler le vélo. Et elle pensait qu'elle était toujours sous l'influence de la mentalité du Taliban. Et après, elle pensait que c'est leur responsabilité de nous arrêter de manière différente, de nous insulter, de nous frapper.
C'est-à-dire que vous faisiez des sorties en vélo et vous subissiez sur les routes des violences, des insultes, voire des agressions physiques?
Tout à fait. Moi, je me rappelle que la première année, j'étais débutante et on était allé dans une route montagneuse et en descendant, on était trois filles. Moi, j'étais la troisième et j'étais tellement concentrée comme j'étais débutante pour contrôler mon vélo et le virage était serré, c'était la descente et tout. Et j'étais tellement concentrée et tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui était dans la voiture qui m'a frappé fortement par derrière. J'étais choquée. Et ce jour-là, je voyais que tous les dangers, c'est possible. Les hommes, ils osent de faire n'importe quoi sur les femmes parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de système prévention pour prévenir tous ces problèmes-là. Et les hommes qui étaient, on peut dire que mentalement, ils étaient malades, qui pensaient qu'ils pouvaient embêter les femmes sans aucune raison et tout. Mais après ce jour-là, je me disais que là, le vélo, c'est pas qu'un sport, c'est un combat pour avoir le droit pour les femmes, que le vélo, c'est tout à fait normal. Et il faut que les gens et la société acceptent que les femmes peuvent utiliser le vélo en tant qu'un outil de transport. Et aucune fille subisse cette violence-là et elle puisse faire de sport, faire de vélo sans avoir peur.
Massoma Alizada, son français impressionnant, son message fort. Cycliste afghane, chef de mission de l'équipe des réfugiés olympiques à Paris cet été. Elle est dans Mondial Sport ce dimanche. Nous la retrouvons dans quelques minutes. En attendant, une autre voix féminine, celle de Kamas Desaxé. Kamas désaxé, les voix féminines portent dans la playlist rfimusique.rfi.fr, une seule adresse pour du bon son. Les voix féminines portent également dans Mondial Sport ce dimanche, Massouma Alizada, des mots et une trajectoire exceptionnelle, celle de la chef de mission de l'équipe olympique des réfugiés lors des prochains Jeux Olympiques à Paris. La trajectoire d'une jeune Afghane qui fait du vélo au mépris du mépris des hommes. Quelques années avant 2021 et le retour des talibans au pouvoir à Kaboul, Massouma Alizada quitte une nouvelle fois l'Afghanistan direction la France. Une famille au grand cœur va l'accueillir grâce au reportage d'une équipe de télévision. Un reportage pour la chaîne de télé franco-allemande Arte.
Quand j'ai commencé à faire du vélo, il n'y avait que mes parents qui savaient que je fais du vélo. Et je ne voulais pas vraiment faire des interviews, être dans les médias. Et je ne voulais pas que mes proches ils savent que je fais du vélo parce que je savais qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. Moi et ma soeur, on faisait du vélo. Et on était les premières filles dans notre famille qui faisaient du sport. Et on avait beaucoup de problèmes par rapport au voisinage. C'était un quartier sensible. Et à chaque fois qu'ils me voyaient dans la télé et tout, pour eux, c'était pas du tout normal que je sois dans la média pour mes proches et tout. Mais en 2015, la chaîne Arte est venue en Afghanistan et après, elle s'intéressait à l'équipe de cyclisme féminin. Et mon coach, il m'a dit qu'il faut absolument que tu fasses cette interview, c'est important et tout. J'étais pas trop d'accord, mais comme ils insistaient, je l'ai accepté. Et après, l'Arte a filmé cette interview et l'a réalisé diffusion en France et en Allemagne. Et en 8 mars 2016, on était invité à l'ambassade d'Allemagne pour la Journée internationale des droits des femmes. Et c'était là-bas que le secrétaire général de l'ambassade de France, il nous a vus par hasard. Il a dit qu'on a vu votre documentaire et on aimerait bien de vous inviter à une course. Et comme ça, il nous a invité à une course en 2016 à Albi. On a participé à une course et moi, j'étais deuxième et ma soeur, elle était troisième. Et après, il y avait une famille française qui sont venus jusqu'à Albi pour nous voir, parce qu'eux aussi, elles ont vu ce documentaire-là. Et après, elles sont venues à Albi pour nous voir. On était toujours en contact. Nous, on est retournés en Afghanistan. Et comme la sécurité était devenue plus en plus dangereuse, parce que c'était les années que le Taliban se préparait à reprendre le contrôle de Taliban. Ils attaquaient les journalistes, les médias, tous les gens qui parlaient mal de eux, ils attaquaient. Ils n'étaient pas d'accord avec les femmes et tout, avec les sportifs. Et on avait tous les jours les explosions sur la route. On n'avait plus de les entraînements à cause de tout ça. Et cette famille-là nous a aidés de sortir de la pays et elle a vraiment battu pour avoir le visa humanitaire. Et après, on est venu en 2017 en France avec toute ma famille. Et cette famille-là qui nous a accueillis dans leur maison secondaire en Bretagne. Et en Bretagne, il y avait des villageois qui nous accueillaient chaleureusement avec leurs fleurs, avec le gâteau. Et là, le premier jour de mon arrivée en France, je voyais la solidarité des Français qui nous a aidés énormément au début pour apprendre la langue, de s'intégrer à la société. Et après, cette famille nous a aidés d'intégrer à l'université. Là, je suis étudiante en master 2 que je vais finir. Là, je suis en stage et je vais finir en septembre en ingénierie. Et j'ai participé aux Jeux Olympiques, j'ai pu continuer le vélo et finalement j'ai intégré l'équipe olympique de réfugiés et j'ai pu participer aux Jeux Olympiques 2020 à Tokyo.
Massouma Alizada, dont le français impressionne notre réalisateur du jour, Olivier Roux. Massouma Alizada interviewé au siège de l'UNESCO. Ce que vous entendez derrière, ce sont des portes qui claquent. Il y a du monde dans cette organisation onusienne. Massouma Alizada sur son vélo, elle le dit, à Tokyo en 2021, pour les JO décalés à cause du Covid, les précédents Jeux, avec, comme elle l'a dit, l'équipe des réfugiés olympiques sous cette bannière des réfugiés olympiques, création récente du CIO, le comité international. Kevin Vessière, spécialiste de sport et de géopolitique, nous en dit un peu plus.
Oui, c'est une création assez récente du comité international olympique qui a pris cette décision en 2015, notamment pour permettre aux sportifs qui étaient forcés de quitter leur pays d'origine, en tout cas de créer une délégation spécifique, notamment suite aux conséquences de la guerre en Syrie, mais aussi au Soudan du Sud. Et donc une décision prise en 2015 avec une première représentation à travers les JO de Rio et une délégation d'athlètes d'une dizaine de participants. Et après, L'expérience a été renouvelée pour les JO de Tokyo et aujourd'hui pour les JO de Paris 2024. Et c'était aussi une manière pour le CIO de redorer son image, mais aussi de prouver que l'olympisme avait un certain côté universel et qu'il pouvait trouver une solution pour ces athlètes qui ne pouvaient pas représenter leur pays dans des bonnes conditions. Notamment, il faut qu'ils aient aussi ce statut de réfugié pour pouvoir ensuite, en tout cas, être invités par le comité international olympique dans cette délégation-là. Et derrière, il leur faut aussi un comité national olympique hôte qui puisse être affilié à l'athlète. Donc, pour le cas de Massouma Alizada, dont je vous parlais, c'était la France. Mais vous avez, en tout cas, pour chaque athlète représentant, un comité national olympique hôte pour, en tout cas, pouvoir valider en quelque sorte sa participation.
Est-ce que cette équipe des réfugiés, elle n'est pas, pour se faire l'avocat du diable, un signe d'une incohérence de plus par rapport au CIO qui se veut neutre au-delà des conflits politiques ou géopolitiques?
Je ne parlerai pas forcément d'incohérence. Thomas Barr et le CIO ont quand même bien conscience que le CIO, par ses décisions, peut avoir un impact politique. Et ça a été notamment illustré à travers leur décision de recommander aux fédérations internationales d'exclure les athlètes russes et biélorusses juste après le début de la guerre en Ukraine. Ils sont finalement revenus sur leur position parce qu'ils jouent toujours un jeu d'équilibriste. Ils veulent finalement promouvoir l'universalisme du sport. Mais d'un autre côté, il ne veut pas le prendre de décision politique, notamment quand ça concerne directement des États ou des conflits, parce que ça peut créer un précédent. Et donc, ce qu'ils ont pu appliquer au cas russo-ukrainien, d'autres ensuite instances au sein du Comité international olympique ont demandé pourquoi est-ce que finalement ça ne pouvait pas s'appliquer à d'autres. Et c'est pour ça que notamment que le CIO est revenu peu à peu sur sa décision, notamment de proposer une réintégration des athlètes russes et biélorusses, mais sous bannière neutre avec des conditions drastiques. Et c'est vrai que cette équipe olympique des réfugiés, c'est une décision politique, mais derrière, il y a quand même un message, on va dire, plutôt positif, et ça ne met pas nécessairement en difficulté le CIO, puisqu'il n'y a pas d'ingérence particulière avec les CNO, ou en tout cas les États qui sont représentés à travers ces comités nationaux olympiques. Le CIO essaye avant tout de mettre en avant le critère sportif, même si parfois sport et politique sont étroitement liés. Vous avez aussi par exemple l'exemple de la boxeuse camerounaise Cindy Ngamba, qui elle est réfugiée au Royaume-Uni en raison de la répression pénale de l'homosexualité, donc qui ne peut pas finalement concourir dans des bonnes conditions dans son pays d'origine. Et donc c'est pour ça que, en tout cas, à travers différentes raisons, qu'elles soient politiques, sociétales ou dans le cas de conflits, notamment vous avez beaucoup d'athlètes syriens aussi du Soudan du Sud ou même d'Afghanistan qui sont présents dans cette délégation pour Paris 2024. Et donc le CIO essaye d'apporter une proposition, en tout cas, à ces athlètes-là, notamment pour que le sport puisse aller au-delà des aspects politiques. Et c'est toujours, en tout cas, ce que le CIO essaye de porter comme message, même si parfois il peut y avoir des lignes rouges. Et c'est là-dessus, en tout cas, que le CIO a un jeu assez d'équilibriste à mener sur ce volet de neutralité politique.
Kevin Vessière, son éclairage, spécialiste de sport et de géopolitique dans Mondial Sport sur RFI. Nous allons entendre de nouveau Massoma Alizada, la cycliste afghane que RFI a rencontrée la semaine dernière à l'UNESCO. Elle va nous raconter son expérience japonaise, les Jeux de Tokyo en 2021, dans la délégation donc des réfugiés. Mais d'abord, un point sur l'actualité sportive de ce dimanche 5 mai. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Hugo Moissonnier et bonjour à toutes et à tous.
Merci de nous avoir rejoints pour parler Première Ligue. Liverpool contre le nord de Londres, ça fait un beau duel en matière de rock'n'roll. Liverpool-Tottenham, ça donne quoi sur les terrains de football?
Ça vous parle, c'est pas tout à fait la musique que vous me proposez dans les oreilles là.
On non, c'est vrai, c'est vrai.
Bon vieux rock londonien, Liverpool-Tottenham. C'est le match pour rester ou croire qu'il peut rester dans la course pour Liverpool, même si la course au titre, elle se jouera entre Arsenal et Manchester. Liverpool qui mène 2-0 à la mi-temps face aux Spurs qui eux peuvent espérer peut-être rejoindre la quatrième place. C'est loin quand même, hein. Aston Villa est 7 longueurs devant pour le moment. Mohamed Salah a ouvert le score, Robertson a doublé la mise, donc 2-0 à la pause. À noter le carton de Chelsea 5-0 face à West Ham, Hugo, avec un doublé, les 4e et 5e buts de ce match de Nicolas Jackson, l'international sénégalais. Ça va lui faire du bien, Chelsea qui remonte à la 7e place. fasse un petit tour aux Pays-Bas pour vous dire que les Eredivisie sont champions et c'est le PSV Eindhoven, sans surprise, pour la 25e fois. Un succès 4 buts à 2 face au Sparta Rotterdam. Les hommes de Peter Bosz, vous vous en souvenez, c'est l'ancien entraîneur de Lyon, saison 2021-2022.
Pas très bien traité entre Sonner et
Rodney. Non, il n'avait pas été très bien traité. Bah, c'est son premier titre. Il a dirigé l'Ajax d'Amsterdam, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et Lyon. Et il est champion pour la première fois, donc, avec le PSV Eindhoven. Enfin, une info du côté du Bayern qui a confirmé pour le match retour face au Real Madrid, 2-2 à l'aller. On se rappelle, le match retour, ce sera mercredi. Il a confirmé le forfait du milieu international portugais, Rafael Guerreiro. C'est l'occasion de rappeler que la veille de ce match-là, il y aura un certain PSG Dortmund qui sera en direct et en intégralité sur RFI mardi soir. Un tout dernier mot pour vous annoncer Rome Juventus Turin. Voilà, c'est la C1 en vue dans le championnat d'Italie ce soir.
La C1 de foot qui joue donc ses demi-finales retour cette semaine. Des demi-finales en Coupe d'Europe de rugby également ce samedi. On va rester sur les références à la musique. Au Toulouse, comme disait Nougaro,
au Toulouse. Une première mi-temps en ballante, une deuxième nettement moins, Hugo, soyons honnêtes. Mais quand même, 6 essais marqués pour les Toulousains face aux Harlequins dans un stadium archi-comble. Et une 8e finale de Champions Cup en vue pour Toulouse, qui s'est imposée 5 fois lors des 7 premières. Et devinez, ce sera face à qui? Face aux Leinster, les Irlandais, des habitués qui avaient sorti les Toulousains lors des deux dernières demi-finales, des deux dernières éditions. Voilà, donc Toulouse en finale de la Champions Cup. Ce sera le 25 mai face au Leinster.
On parle cyclisme dans Mondial Sport avec Massoma Alizada. On parle de beaucoup de choses avec elle. Le cyclisme en Italie. Le Giro a démarré, le Giro 2024, le Tour d'Italie de cette année.
Exactement, il a démarré hier. Et dès la deuxième étape, eh bien, il est assommé en quelque sorte par le grand favori, Tadej Pogacar. C'est un petit peu comme en Formule 1, dont on parlera dans deux secondes, en vélo en ce moment. En Formule 1, si Verstappen, bah c'est lui qui gagne à la fin. Le but du jeu, c'est de savoir qui sera deuxième et troisième. C'est un peu pareil quand Tadej Pogacar s'aligne. C'est sa 8e victoire cette saison. Le premier succès sur les routes italiennes pour le Slovène, qui, on le rappelle, donc endosse le maillot rose de leader. Du même coup, il a gagné en solitaire. Il vise un doublé Giro Tour de France qui n'a pas été réalisé depuis 1998 par un certain Marco Pantani de sinistre mémoire par rapport à son dopage connu. Et on aura une pensée pour lui parce qu'il a mal terminé. On se souvient qu'il s'était suicidé, Marco Pantani.
Et sa fin tragique, il me semble, il y a 20 ans d'ailleurs. Ouais. Il me semble que c'était en 2004.
Il avait été retrouvé au bord du lac de Côme, je crois, dans un hôtel.
Fin, à Rimini.
Oui.
Le judo, le basket, la Formule 1, qu'est-ce que
allez,
vous choisissez?
Allez, pêle-mêle, on va choisir
peut-être le judo. Teddy Riner, ouais, puisqu'on parle de Paris Riner, 2024.
Bah ouais, Teddy Riner qui visera un troisième titre chez les lourds 2012-2016. Il rêve de Paris 2024, il a quand même 35 ans. Aussi, et il avait besoin de se rassurer. Il avait pas été, il avait fait des déclarations qui laissaient penser qu'il était un peu fatigué en s'imposant au Grand Chelem d'Antalya il y a quelques semaines après avoir gagné celui de Paris. Et bien aujourd'hui, il a remporté le Grand Chelem de Douchanbé, c'est au Tadjikistan, en battant en finale le Tadjik Temur Rakhimov, qui est numéro 2 mondial. Donc tous les voyants sont au vert pour Teddy Riner. Un mot de la balle, puisqu'on en a parlé de basket dans Mondial Sport.
La basket de l'Africa League, c'est l'un de nos feuilletons du moment, bien sûr.
Et bah, on va poursuivre le feuilleton, nouvel épisode, c'est à Dakar, la conférence Sahara. Les deux premiers, on le rappelle, iront à Kigali pour la phase finale à la fin du mois. L'AS Douane a perdu hier, vice-champion en titre, a perdu hier à domicile. Eh bien, à 17h30 temps universel, ce serait bien de gagner, après la défaite face à APR du Rwanda, ce serait bien de gagner face à Monastir pour se remettre dans le sens de la marche. Et puis le dernier mot pour la F1 ce soir, 22h temps universel.
Verstappen,
alors monsieur Verstappen, il est en pole position, il va gagner, on le sait. Derrière, deux Ferrari, Leclerc, le monégasque, et Sainz, pour essayer de contrecarrer ses plans. 20h temps universel, le départ de ce Grand Prix de Miami aux États-Unis.
Et si vous préférez la F1 d'avant, émission hommage à Ayrton Senna, c'était hier dans Mondial Sport. À réécouter sur le www.rfi.fr, onglet Mondial Sport. Olivier Pron,
on reste dans la thématique des jeux quand même. Elle arrive. Et plus que 2 jours de mer, 3 tout au plus pour la flamme olympique.
Elle avance pas au rythme d'une Formule 1.
Non,
elle se fait attendre.
Pas vraiment, ça fait 12 jours, 10 jours qu'elle a quitté Athènes. Elle arrive, c'est mercredi matin. RFI sera là mercredi matin à Marseille. 150 000 personnes attendues pour accueillir cette flamme qui sillonnera la France ensuite.
et RFI sera là, vous l'avez dit, Olivier Pron, vous pouvez vous en aller et profiter de votre dimanche soir. Merci Olivier, Mondial Sport se poursuit.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Massoma Alizada, cycliste afghane, chef de délégation de l'équipe des réfugiés olympiques cet été. Elle est l'invitée de Mondial Sport ce dimanche. Et si à Paris, dans quelques semaines, elle œuvrera plutôt en coulisses, elle était sur la piste à Tokyo pour ses premiers Jeux il y a 3 ans. Elle partage avec nous ses souvenirs.
Quand je suis venue en France, je voulais absolument continuer le vélo et mon objectif c'était de participer aux Jeux Olympiques. Mais en tant qu'une réfugiée, on n'a plus le droit de présenter notre pays et mon coach a renseigné quelles possibilités de participer aux Jeux Olympiques, l'équipe olympique de réfugiés. Du coup, j'ai pu obtenir la bourse et après j'ai intégré l'équipe olympique de réfugiés et j'ai pu participer aux Jeux Olympiques avec cette équipe. Oui, et là, le prochain Jeux Olympiques, je serai chef de mission pour l'équipe olympique de réfugiés.
Qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que vous êtes entrée dans le stade olympique à Tokyo ?
La cérémonie d'ouverture, ça se passait pas autant que j'attendais parce que c'était la période de Covid, il n'y avait pas de spectateurs et tout. Et la cérémonie, comment on a attendu beaucoup derrière la porte, il faisait chaud, on avait soif, on avait faim. J'avais porté un talon que j'avais pas du tout l'habitude de porter le talon, mais puis elle était blessée. On était tellement fatigués physiquement, mentalement, parce qu'en tant que participant pour les Jeux Olympiques, on est beaucoup, beaucoup sollicité. Il faut qu'on entraîne régulièrement et d'avoir un niveau sportif haut niveau. Et en plus, il y avait des médias, il y avait des sollicitations, de voir beaucoup de monde et tout, parler avec les gens. Du coup, on est tellement fatigué. Et moi, la cérémonie d'ouverture, je sentais pas grand chose parce que je me sentais mal. Mais quand j'étais pendant ma course, quand j'étais sur mon vélo, il y avait des gens qui m'encourageaient, qui criaient mon nom, Alizada, Alizada. Et ce jour-là, je me sentais que je suis une cycliste professionnelle, comme le Tour de France, qui avait des gens autour des routes, et après, t'encourages et tout. Ce jour-là, j'étais fière. J'étais surtout fière de mon parcours, que j'ai pas abandonné. J'ai continué. Et là, je suis sur mon vélo. Il y avait des gens qui m'encouragent. Et ils pensent que mon histoire est inspirante. Et là, j'envoie le message de l'espoir, de la paix. Et je représente toutes les femmes afghanes qui battent pour avoir le droit basique. Et ce jour-là, que j'étais fière et j'étais vraiment heureuse et j'étais surtout contente que je n'ai pas abandonné. Et là, j'ai participé aux Jeux Olympiques, mon rêve a réalisé, même je pensais que c'était un rêve impossible. Mais ce jour-là, je voyais que tous les rêves sont possibles.
La force de Massoma Alizada, de son rêve olympique de Tokyo à Paris cet été, son pays d'adoption, la France, la cycliste afghane revient tout de suite sur RFI pour parler de ces Jeux 2024. Mais tout de suite, Mondial Sport inaugure un nouveau rendez-vous en lien avec ce rendez-vous pour se projeter sur ces JO. Nous allons suivre dans la dernière ligne droite quelques athlètes africains qui se préparent eux aussi à vivre ce rêve olympique dans la ville lumière. Eux aussi ont des histoires peu banales à partager. On inaugure ce feuilleton avec le nageur Freddy Mayala. C'est l'un des 3 qualifiés du Congo-Brazzaville pour Paris 2024. On le retrouve au bord d'une piscine ce dimanche dans le village Ibiti, au centre de Brazza. Brazzaville, la capitale du Congo, qui n'a pas toujours été le QG de Freddy Mayala. Faute d'une piscine à sa disposition, eh bien, Freddy Mayala a passé près de 6 mois à s'entraîner dans le nord du Congo, dans la ville d'Evo, dans une rivière.
Je viens ici à l'espace ici de temps en temps, qui est pour me distraire, mais de temps en attendant que je puisse reprendre mes activités au niveau de la piscine olympique de Kindele. En réalité, je suis là que le dimanche. Avant d'arriver ici, nous étions à Evo. Et nous sommes partis à Evo lorsque la fédération m'a appris que je suis qualifié pour les Jeux Olympiques. Et étant donné que la piscine n'était pas opérationnelle, la piscine olympique n'était pas opérationnelle, la fédération avait décidé de nous emmener avec l'autre fille qui est qualifiée à Evo et qu'on s'entraîne, moi, Montagne et moi, à la rivière qui se trouve à Evo.
pendant que vous vous entraîniez dans la rivière Aïvo, au nord du pays, si à tout hasard, un crocodile ou un hippopotame surgissait.
Mais on va s'enfuir, sans réfléchir. Sinon, ce sont des cas qui arrivent très rarement. Et puis, on n'est jamais arrivé là. Non, pas du tout. Mais on avait pris une partie qui était un peu isolée, réglée. Et puis, la fédération avait pris des mesures pour assurer la sécurité des athlètes. On avait 3 séances d'entraînement par semaine et 2 séances d'entraînement par jour. Ça nous a pris quelque chose de 6 mois de préparation à Evo. Il était temps de descendre à Brazzaville pour venir suivre la suite de nos préparations à la piscine olympique de Kintele. Après la visite des piscines, il y a des réunions que je participe au niveau de la fédération et voir aussi avec mon sponsor. Bonjour Julien, tu peux me donner quelque chose à voir?
Oui, attendez, je vous sers ça tout de suite.
Bon, là actuellement je viens de terminer, je dois rentrer, je vais aller directement à la maison et me reposer, rester en famille. Les difficultés de la vie, c'est ça qui nous donne la force de s'investir, de donner plus le meilleur de soi pour qu'on ne puisse pas vivre ces conditions éternellement. J'ai eu mon bus que j'attendais, là je m'en vais déjà. Donc je vous dis à la prochaine.
À la prochaine, Freddy Mayela, qu'on va retrouver dans Mondial Sport, un billet pour Paris, notre nouveau feuilleton, le premier épisode parfaitement validé par l'excellent Fabien Essian et très prudent et qui a très peur des crocodiles apparemment. Nouvel épisode, autre athlète, autre pays, dimanche prochain. Massoma Alizada, rencontrée au siège de l'UNESCO, se prépare aussi pour les Jeux. La cycliste afghane est l'invitée de Mondial Sport ce dimanche. Elle sera cet été la chef de mission de l'équipe des réfugiés olympiques.
Je serai chef de mission, mais pas porteur de drapeau, parce que je ne serai pas une athlète active qui participe aux Jeux Olympiques. Je serai que chef de mission, mais je vais porter la flamme olympique en juillet. Et je pense que ça va être 10 juillet à Orléans. Du coup, si ça ne change pas la date et le lieu, du coup, je suis tellement heureuse que je porte la flamme olympique qui représente la paix. Et pour moi, c'est hyper important de parler de la paix.
Qu'est-ce que vous apprenez auprès de ces autres athlètes qui se sont retrouvés dans la même situation que la vôtre?
L'équipe olympique de réfugiés est composée de plus que 70 athlètes boursières et la sélection finale, ça va être le 2 mai. Et quand on vit dans différents pays, c'est à peu près 23 pays différents. En 2020, à cause de la Covid, il y avait beaucoup de règles strictes. On n'avait pas le droit de se voir, de se rassembler et tout. On n'avait pas vraiment l'occasion de partager nos histoires et de partager nos parcours et tout. Mais je pense que chaque athlète réfugié a une histoire différente et inspirante. Et le poids commun entre nous, c'est la résistance, surtout la résistance, parce que je sais que chaque réfugié qui est arrivé jusqu'à Jeux Olympiques, elle a passé les chemins hyper difficiles, mais elle n'a pas abandonné jusqu'à qu'elle arrive jusqu'à Jeux Olympiques. Du coup, le poids commun, c'est sûrement c'est le travailler dur et la résistance.
Suite et fin de notre entretien avec Massoma Alizada, la chef de mission de l'équipe des réfugiés olympiques cet été à Paris. Dans quelques instants, Mondial Sport entame sa dernière ligne droite, hein, comme dans une course cycliste. Mais la dernière ligne droite, c'est après Jane, Cosmic Love. Les femmes ont la parole dans RFI, dans Mondial Sport, ce dimanche.
galactic rose. Big Bang dreams of painted blue. Lion love is shining through. And you know that I've kept to you this very, very night.
Jane, Cosmic Love dans Mondial Sport sur RFI, la fin de notre entretien dans quelques minutes avec Massoma Alizada, la cycliste afghane réfugiée en France, qui est désormais une figure olympique à Tokyo il y a 3 ans, puis à Paris cet été, en tant que chef de mission des réfugiés olympiques. Massoma Alizada, qui effectue également de brillantes études, on l'entendra nous en parler, son destin tranche évidemment avec la vie des Afghanes restés au pays sous le régime des talibans, des extrémistes religieux revenus au pouvoir. Ces derniers interdisent aux filles et aux femmes la pratique du sport. Ils leur interdisent également les études après l'âge de 12 ans. Les femmes afghanes n'ont pas non plus le droit de travailler, à quelques exceptions près, dans des secteurs, mais leur quantité reste très limitée. Sonia Ghezali a pu joindre par téléphone plusieurs femmes en Afghanistan pour parler avec elles de pratique du sport. Elle a été aidée dans ce reportage par Fariba Abkari.
L'arrivée des talibans en Afghanistan a anéanti les rêves sportifs de nombreuses Afghanes comme Moujda, passionnée de boxe. Elle a 13 ans et vit dans la province de Palwan, dans l'est de l'Afghanistan.
Après que les talibans ont pris le pouvoir, on a repris les leçons de boxe avec notre équipe pendant quelques mois. Mais les talibans sont venus où on s'entraînait et ils ont dit à notre entraîneur qu'ils ne pouvaient pas continuer et qu'ils devaient fermer le centre pour les filles. Avant l'arrivée des talibans, c'était très facile de faire du sport. Je n'ai plus d'espoir parce que je ne peux plus faire de boxe, mais je continue à m'entraîner à la maison avec ma sœur.
Moujda passe ses journées enfermée chez elle. Privée de sport, elle est aussi privée d'école car les filles ne peuvent pas étudier au-delà de la 6e au collège sous le régime taliban.
Mon rêve, c'est d'abord de poursuivre mes études parce que nous n'en avons pas le droit. Je veux que nous, les filles, puissions toutes retourner à l'école. Ensuite, je veux devenir boxeuse professionnelle et enseigner gratuitement cette discipline aux autres filles.
À Herat, dans le nord-ouest de l'Afghanistan, Tanid, 14 ans, ceinture jaune de taekwondo, continue de pratiquer son sport en cachette.
J'ai très peur que les talibans m'arrêtent. J'ai aussi peur que ma famille se fasse arrêter. C'est ce que je ressens. Mon entraîneur a été arrêté 2 fois par les talibans qui lui ont demandé pourquoi il enseignait le taekwondo aux filles, pourquoi il faisait du sport avec les filles. Nous avons continué, mais on a dû changer de lieu d'entraînement plusieurs fois à cause de ça. Si nous avons une nouvelle recrue, alors on lui dit de ne surtout pas parler des cours, de l'endroit où on s'entraîne, parce que ça peut être très dangereux pour nous toutes, pour tous les membres de notre équipe.
Mohdad, 18 ans, refuse, elle, de renoncer. Elle continue de prendre des cours de taekwondo.
C'est très important pour moi de continuer parce que j'en ai très envie et je ne veux pas abandonner à cause de la situation difficile en Afghanistan. Non, je veux continuer et ne pas perdre espoir. Avant les talibans, on pouvait faire du sport facilement, mais depuis le changement de régime, c'est très compliqué pour nous de pouvoir continuer à pratiquer une activité sportive.
Maudad confie sa frustration et son désespoir.
Je peux vous assurer qu'en Afghanistan, nous ne pouvons pas nous améliorer dans ce que l'on fait comme on le pouvait dans le passé. Nous ne pouvons pas progresser. Je pense que dans notre pays, il est impossible de construire un avenir quel qu'il soit parce que tout est vraiment difficile. Et les talibans n'autorisent pas les filles à avancer, à progresser. Ils disent que les femmes ne doivent pas faire de sport parce qu'elles sont des femmes. Les hommes, eux, peuvent pratiquer n'importe quel sport, ce qu'ils veulent. Mais je continue de vouloir faire du taekwondo au niveau professionnel et j'obtiendrai une médaille.
Comme de nombreux Afghanes, elle refuse de renoncer à son rêve, peu importe les risques. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
La vie pour les gens, pour les femmes en Afghanistan, j'ai l'impression que c'est un ralentissement. Ça veut dire qu'on vit sans faire aucune activité, parce qu'on n'a pas le droit de faire aucune activité en Afghanistan en tant qu'une femme. Elle passe juste les journées sans faire quelque chose de positif. Et là, quand on n'arrive pas à faire des choses positives, j'ai l'impression qu'on est juste vivant. En survivre. Et là, la vie pour les gens en Afghanistan, surtout pour la femme, c'est survivre. Elle ne vit pas vraiment. Et moi, à chaque fois que je compare ma vie ici et la vie de femme en Afghanistan, je compare et je vois quelle différence. J'ai l'opportunité de continuer mes études, de faire du sport, de parler sur mon parcours, de faire n'importe quel objectif que j'aimerais bien de faire. Je peux le faire, juste il faut travailler. Mais le problème en Afghanistan, c'est que les femmes, même, elles voudraient travailler, mais il faut faire des efforts, mais elles n'ont pas l'opportunité, elles n'ont pas le droit. Et là, c'est vraiment grave et c'est très triste qu'il y a beaucoup de femmes en Afghanistan qui ont beaucoup de potentiel, beaucoup de talent, beaucoup d'objectifs, beaucoup de rêves, mais la seule chose qu'elles n'ont pas, c'est le droit. On sait, mais on ne peut rien faire pour eux. Et moi, en tant qu'une femme qui vit dans un pays en France en liberté, j'aimerais bien envoyer leur message. Et j'espère que les gens qui sont au pouvoir faire quelque chose et agir en action et essayer d'avancer des choses en Afghanistan pour le droit de femme. Et il ne faut pas qu'on reste silencieux et fermer les yeux et... Il ne faut pas abandonner les femmes, il ne faut pas les oublier. Là, moi je suis ici, je ne peux pas dire que je pourrais inspirer les femmes afghanes parce que même je les inspire, eux, elles ne peuvent rien faire. Elles ne peuvent pas faire la même chose que moi. Et inspirer, ça ne sert à rien quand on l'inspire, mais eux, elles n'ont pas le droit de faire la même chose. Ça sert à quoi d'inspirer qu'elles n'ont pas le droit ?
Vous êtes en train de finir vos études?
Je suis étudiant en master 2 ingénierie urbaine à l'université de Lille, Polytechnique. En fait, quand j'ai choisi ingénierie, parce que j'ai grandi dans une société qui, en tant qu'une femme, elle me disait que t'es pas assez intelligente, t'es pas assez fort de faire des sports difficiles. Et quand j'ai choisi faire ingénierie, c'était quelque chose, je voulais approuver à moi-même que tu es capable de faire une étude difficile. Première année, j'ai appris la langue, 2 semestres. Après, la deuxième année, j'ai commencé l'université. Et aussi, le système d'éducation en Afghanistan et en France est totalement différent. Je n'étais pas une étudiante normale. Il fallait que je travaille 2 fois ou 3 fois plus. Mais là, maintenant, à l'avenir, j'aimerais bien de travailler plus en e-sport. Je l'ai fait 2 ans en e-sport en Afghanistan et j'étais le prof d'e-sport à l'école. Des filles et je voulais apprendre le vélo à l'école pour les filles, mais malheureusement, le premier jour que j'ai commencé à apprendre les filles à faire du vélo, les autres enseignants, elles m'arrêtaient, elles ont dit que t'as pas le droit d'apprendre le vélo pour les filles parce que si leurs parents, elles sachent que tu apprends le vélo pour leurs filles, elles vont pas être contentes, elles vont posé la plainte, elle ne m'a pas laissé. Et après, je me suis orientée en informatique, et après en ingénierie. Et là, tout ce que je fais avec le CIO, avec le sport et tout, je me dis pourquoi je n'ai pas fait mes études en e-sport. Mais j'espère qu'à l'avenir, je pourrai travailler dans le sport parce que le sport est ma passion. Et j'ai l'impression que j'ai plus de compétences en e-sport et c'est ma passion. Je pense que si on a une passion dans une profession, je pense qu'on sera plus réussi aussi en travaillant, on s'amuse plus.
Merci beaucoup.
Merci infiniment à vous de me donner l'opportunité de parler de ça qui est très très important et j'espère que ça pourrait inspirer les gens et aussi changer la vie des gens qui pensent mal aux réfugiés. Et j'espère que les gens qui étaient contre les réfugiés et de changer leur avis et de voir un autre avis sur les réfugiés.
Les derniers mots, très inspirants, on la rassure, de l'Afghane Massoma Alizada dans Mondial Sport, la chef de mission des réfugiés olympiques, l'équipe des réfugiés à Paris cet été. Merci à elle pour son temps et son discours et ses mots et sa gentillesse et son esprit et tous ses messages. Merci à l'UNESCO d'avoir rendu possible cette rencontre. Une fois n'est pas coutume, un peu de rap en termes de musique dans Mondial Sport, histoire de donner la voix encore à des femmes. Terre là-bas, Valérie Chentef, ça pas une rêve, on est au bord de l'eau, on est bien.
Assis sur le bord de la mer, côté Outlam, mais écoute mon imagination. Moi la perle mon flamme, dans le cabaret l'émotion, ma rodali derrière l'horizon. Ça pas un rêve, non. L'homme cache l'amour, il monte sur mon rein, il pèse le mot. Mon ciel si haut, ça pas un rêve, non. Mais pèse le mot quand mes dix autres noms. Libère-moi. Assis sur le bord de la mer. C'est haute l'âme, m'y cherche, m'y redoute l'attention. Où est mon fanal, mon chemin galisé? Où est mon canal, mon secret danse dans alizé?
Mondial Sport revient la semaine prochaine sur RFI. Demain, Radio Foot, bien sûr, 16h10, temps universel. Merci Olivier Roux qui était à la réalisation de Mondial Sport ce week-end. Tout de suite, un nouveau journal international avec Nicolas Brousse aux manettes. Et puis, évidemment, 30 minutes d'information en langue mandingue pour nos auditeurs en Afrique de l'Ouest. Très bonne soirée à l'écoute de la Radio du Monde.